1 Samuel. Donc on avait fini avec la période des juges et avec l'histoire de Ruth. Et le livre de Samuel commence avec l'histoire de Samuel qui est le dernier juge en Israël. Aujourd'hui, on va voir donc la vie de Samuel. On va voir l'arrivée de la monarchie en Israël. On a vu l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à maintenant, avec les patriarches, avec Moïse, avec Josué, après avec les juges. On pourrait dire qu'il y avait déjà un peu, enfin il y a les patriarches. On pourrait dire qu'il y avait un peu une direction du peuple par les prêtres avec le tabernacle. Il y a ensuite les juges. Et aujourd'hui, on va voir la transition à la monarchie avec l'arrivée au pouvoir de Saül. On va voir ensuite David après lui et Salomon. Puis le royaume va être divisé en deux après Salomon. Il va avoir un petit peu un schisme, une petite guerre civile. Et on va avoir le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et les choses vont rester ainsi jusqu'à la fin des livres qu'on va étudier aujourd'hui. Et c'est le moment où le peuple, les deux royaumes, sont défaits par les Assyriens et par les Babyloniens et vont être emmenés en exil. Donc ça, c'est la grande idée de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je voulais avoir ces petites fiches-là et avoir un petit peu des aides visuelles parce que la Bible, il y a des parties où c'est très simple, où il y a des récits très, très clairs et où on a des récits linéaires dans Samuel, dans certains passages dans la Genèse, dans différents endroits, dans Josué, où c'est très bon, voilà l'histoire, voilà ce qui se passe, etc. Il n'y a pas de complications trop, on comprend très bien ce qui se passe, c'est une histoire. Ici, ces livres aujourd'hui sont assez clairs, mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, ils englobent une grande partie de l'histoire du peuple d'Israël qui va être relatée dans d'autres livres de la Bible. C'est-à-dire qu'on rentre dans une partie où il y a plein de livres qui sont écrits, mais en fait qui sont en même temps dans l'histoire. Et si on regarde jusqu'à après les chroniques, il reste encore 25 livres dans l'Ancien Testament. Mais en fait, sur les 25 qui suivent, il y en a 14 qui font référence à cette période qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a Psaume, qui était en grande partie écrit par David, par d'autres personnes aussi. Il y a les Proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, en grande partie c'est Salomon qui les a écrits. Ensuite, on va avoir des prophètes avec des gros livres, Ésaïe. Puis les petits prophètes qu'on va regarder aussi dans les cours à venir, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc et Sophonie. Et puis il y aura les livres aussi de Jérémie et les lamentations de Jérémie qui englobent une partie de ce qu'on va regarder aujourd'hui et une partie de l'exil à Babylone. Et donc c'est un petit peu difficile parfois de comprendre, surtout quand on essaie de lire de manière linéaire. On arrive, on lit ça, puis quelques mois après, on arrive sur Jérémie et on est en train de lire et on ne se souvient plus de ce qu'on a vu dans ces livres-ci. Donc on ne sait plus de qui il est question. Donc c'est bon de se rappeler qu'ils font référence toujours à cette histoire et ce qui se passe ici. Ce schéma-là ne le montre pas exactement. Je compte vous en faire un pour les cours suivants quand on va regarder les prophètes. Où on voit les dates, les références, où sont les prophètes par rapport aux différents rois qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous le rappeler, si vous êtes en train de lire la Bible ou si vous êtes dans les prophètes, il y en a qui lisent la Bible en un an et ils tombent des fois dans les parties sur les prophètes et ils disent « je comprends rien, je sais pas de qui il s'agit, il parle de peuple, de roi, je sais pas qui c'est ». Et c'est les personnes qui sont décrites en détail dans les livres qu'on va regarder aujourd'hui. la grande idée aussi qu'il est bon de se rappeler, c'est cette idée de royauté. C'est en grande partie le peuple d'Israël qui rejette un petit peu la volonté de Dieu pour eux. Et on va le voir avec Samuel. Samuel est un petit peu déçu, le peuple vient le voir et dit « on veut un roi, on veut être comme les nations autour de nous ». Et en fait, ils disent de manière très explicite « on veut être comme tout le monde ». On en a marre, on veut être comme tout le monde, donne-nous un roi. Et Samuel est déçu et Dieu va dire à Samuel « Samuel, c'est pas toi, c'est moi qui le rejette ». Et donc cette idée, c'est que le peuple, encore une fois, leur cœur n'est pas au bon endroit, ils ne suivent pas vraiment Dieu. Et ce qu'ils veulent et ce qu'ils poursuivent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et dans ce livre, on va voir que ça va les amener jusqu'à l'exil et la condamnation de leur système de roi, en fait. Donc 1 et 2 Samuel, on va commencer avec ces deux livres. On n'est pas sûr de qui en est l'auteur, il y a différents débats. C'est des livres intéressants au niveau historique, dans le sens où ça fait partie des premiers livres qu'on pourrait dire, ils appellent ça des histoires ou des historiographies objectives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres antiques qui ont été écrits sur l'histoire, mais qui sont très orientés. C'est-à-dire que c'est un pharaon ou quelqu'un qui dit « je veux que tu écrives mes histoires ». Alors c'est le Dieu qui fait rien de mal, qui est magnifique, etc., etc. Tout est dithyrambique. Et dans les livres qu'on a ici, on a des détails historiques très précis, mais on a aussi les rois décrits de manière très objective. Ils ont fait des choses bien, ils ont fait des choses mauvaises, ils ont fait n'importe quoi, ils ont bien organisé, ils se sont bien comportés ou pas, etc. Donc il y a vraiment une objectivité historique qui est très intéressante et nous, on va pas en parler, mais il y a plein de références dans d'autres écrits antiques qui se recroisent, les noms, les dates, les époques, avec les différents rois en place, avec les peuplades qui étaient autour, qui aussi ont des écrits de leur histoire et de ce qui se passe dans ces livres. Donc on commence dans 1 Samuel. Je vais vous faire un petit résumé du livre, on va pas le regarder en détail, mais... On regarde donc 1 Samuel qui commence avec la naissance de Samuel. Il est remis au prêtre Élie pour servir Dieu. Ce prêtre Élie était un prêtre au tabernacle et était aussi le juge en Israël à cette époque-là. Et on voit au début du livre que la famille d'Élie, il a deux fils, Ophni et Phinéas. Qui font n'importe quoi. Ils doivent s'occuper du tabernacle et des rites religieux. Et en fait, ils abusent de leur pouvoir. Ils piquent un peu les offrandes pour en profiter eux-mêmes, etc. Et Dieu dit à Samuel, faut que tu fasses quelque chose là avec tes deux fils. Alors il essaie de les réprimander, mais ça change rien. Et Dieu prononce un peu une les fils d'Élie, pardon. Et donc Dieu condamne un petit peu la famille d'Élie et dit tu vas perdre un peu ton influence et ta famille va disparaître. Et à ce moment-là, autour de ce moment-là, Dieu appelle Samuel qui est un peu le disciple d'Élie au temple ou au tabernacle, pardon. Et il lui dit, c'est toi qui va prendre le relais. Et on arrive à une bataille. Pendant cette période, Israël a pas mal d'ennemis autour. Et vous pouvez regarder là sur la carte si ça vous aide. Si vous regardez sur le côté ici, il y a les Philistins. Et pendant une bataille avec ces Philistins, Israël est battu. Un endroit qui s'appelle Ebenezer, et ils se disent on a oublié d'en parler à Dieu, de voir ce que Dieu si Dieu était avec nous ou pas, de consulter les prophètes, et ils se disent on va faire venir l'arche de l'alliance et ça va nous faire gagner la bataille contre les Philistins. Et les deux fils, Ophni et Phinéas de d'Élie, amènent l'arche de l'alliance et le peuple d'Israël est battu sévèrement. Les deux fils sont tués pendant la bataille et les Philistins prennent même l'arche de l'alliance en butin et l'amènent chez eux. Et quand Élie, la nouvelle est rapportée à Élie qui n'était pas allé pour la bataille, qui était vieux, et quand il entend ça, il meurt, il tombe à la renverse et meurt, et donc il y a toute sa famille qui est effacée au début du livre. On a ensuite l'histoire de l'Arche de l'Alliance qui va chez les Philistins, et en fait ça leur amène que des ennuis, ils ont des maladies, ils ont leur dieu, leur statue de dieu qui se retrouve, qui tombe par terre, qui se casse et tout. Ils se le refilent comme une patate chaude, ils veulent pas le garder, ils se disent tiens c'est une mauvaise idée. Et au final ils se disent on va le mettre sur un char avec deux bœufs et on va voir où ils partent. Et ils le laissent partir et les bœufs ramènent l'Arche de l'Alliance chez les Israélites. Et elle est stockée à un endroit qui s'appelle Kiriath Yeharim. Et puis elle est un peu oubliée, en fait, elle est laissée là. Et on nous dit que pendant 20 ans, il ne se passe rien. Finalement, donc il y a une espèce de parenthèse là dans 1 Samuel 7 où on nous dit 20 ans plus tard, finalement, Israël continue d'être opprimé par les Philistins et ils en appellent à Dieu, ils disent Dieu, aide-nous, sauve-nous. Ils reviennent un petit peu vers Dieu. Et Samuel vient alors leur dire ce qu'ils doivent faire pour obéir à Dieu et pour suivre Dieu. Et quand ils obéissent et quand ils font ce que Samuel leur dit de faire, ils ont une grande victoire militaire contre les Philistins. Le livre ensuite nous dit que Samuel se fait vieux et il a ses deux fils, Joël et Abia, qui sont juges sur Israël, mais qui ne suivent pas ses voies et qui font un peu n'importe quoi aussi. Et c'est à ce moment-là que le peuple commence à se plaindre. Ils disent « Tes fils, ils font n'importe quoi, un peu comme les fils d'Élie. » Et le peuple dit « On veut un roi aussi, quoi. On veut être comme les autres nations. » C'est dans 1 Samuel 8, 5, si vous voulez regarder. Ils lui dirent, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme on en trouve dans toutes les nations. Et on voit dans la suite qu'il y a Samuel qui est déçu par cette demande, qui le prend peut-être personnellement. Mais Dieu lui dit, c'est pas toi, c'est moi qui le rejette. Et il dit à Samuel d'exaucer leurs souhaits. Et à ce moment-là, on a, à partir du chapitre 9, l'histoire de Saül, qui est fait roi par Samuel, d'après les ordres de Dieu. Dieu lui dit que c'est lui qui doit être oint pour devenir le roi. Donc Saül est fait roi par Samuel. Il commence avec une victoire militaire contre les Ammonites. On a ensuite un chapitre où Samuel prévient les Israélites qu'il leur faut continuer à obéir à Dieu. On avait vu dans les juges qu'il y avait un cycle qui se répétait où Israël laissait tomber Dieu, était opprimé. Dans l'oppression, ils se disaient « Ah tiens, si on demandait de l'aide à Dieu, et puis quand ils demandaient de l'aide, Dieu les libérait. » Et il y a un petit peu ce genre de cycle qui se répète, seulement maintenant c'est avec des rois qui vont soit faire ce que Dieu veut et ça va bien aller, soit ils vont se détourner et faire ce qu'ils veulent et ça va mal aller, et donc il y a ce rythme qui va se répéter. On a ensuite dans le livre de 1 Samuel une longue partie sur le règne de Saül avec des guerres menées contre les Philistins. On a des choses sur son fils Jonathan qui fait des exploits. Il fait la guerre aux Amalécites. Là, il y a un épisode important où en fait Dieu lui donne des ordres par la bouche de Samuel. Samuel dit à Saül, ne prends pas de, je veux que tu extermines le peuple en question et je veux que tu ne prennes pas de butin. Tu prends rien de ce qu'il y a dans le territoire. Et en fait, Saül va épargner le roi et un peu leurs hommes notables et va prendre certains de leur cheptel, de leur troupeau, en se disant c'est finalement c'est dommage de le gaspiller en quelque sorte. Et ça, c'est un peu la dernière goutte pour Saül, et qui avait déjà fait des choses avant, qui avait déplu à Dieu, et aux yeux de Dieu, ça signale un petit peu la fin de son règne. Et on voit, c'est dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Donc c'est un petit peu là Samuel prononce un petit peu la fin du règne de Saül aux yeux de Dieu. Saül va rester au pouvoir encore pendant un moment, mais c'est le moment clé dans l'histoire de Saül. Qui signale le passage du flambeau. Et on voit ensuite, donc, dans 1 Samuel 16, Dieu dit à Samuel d'aller oindre David. Et c'est ce moment-là qu'entre en scène David. Il y a l'histoire avec la guerre contre les Philistins et notamment Goliath. Donc, l'histoire de David contre Goliath qui est dans 1 Samuel 17, où David va avoir la victoire sur Goliath. Cette victoire va provoquer la jalousie de Saül envers David, parce que le peuple commence à se dire « Tiens, David, il est cool, il a gagné contre Goliath, il a tué ses 10 000 ». Saül va même en venir à vouloir tuer David, tellement il est jaloux et il se sent menacé par ce David. Le fils de Saül, Jonathan, qui est un proche ami de David, va le protéger, va le prévenir, et David s'enfuit alors hors d'Israël, dans le sud. Il va avoir différents épisodes. Il va avoir une garde rapprochée qui va partir avec lui. David, il a tout un groupe d'hommes qui partent avec lui, qui sont un petit peu comme une garde rapprochée, quoi, une petite milice. Et ils vont avoir des victoires militaires à différents endroits. Surtout dans le sud du pays, dans des parties désertiques où il va pouvoir se cacher. Saül va le poursuivre militairement pour essayer de l'attraper et le tuer. Et par deux fois, David va avoir l'occasion de tuer Saül, en fait, à différents moments. Et il refuse de tuer Saül en disant « c'est Dieu qui a oint Saül roi, je ne veux pas me venger moi-même ». Si Dieu veut que je sois roi, il fera que je sois roi au moment où je dois être roi et je vais pas tuer Saül de ma main. Et David continue à se cacher. Il y a des épisodes un peu marrants où il va même se joindre aux Philistins, où il va faire semblant d'être fou pour essayer de se faire accepter par différents peuples qui se méfient de lui, qui se disent non, c'est peut-être un piège. On a ensuite on va dire un petit peu la fin de la vie de Saül, où il doit aller en bataille contre les Philistins, et en fait il veut avoir les nouvelles de Dieu. Il demande à ce que les prophètes lui disent ce que Dieu pense, et il n'entend rien, et donc finalement il va voir une magicienne. Et c'était quelque chose qui était proscrit par la loi de Dieu, dans le Pentateuque. Et cette magicienne va lui annoncer sa mort, en fait, prochaine. Et Saül et même son fils Jonathan vont effectivement mourir juste après, dans une bataille contre les Philistins, à un endroit qui s'appelle le mont Gilboa, dans 1 Samuel 31. Et ça marque la fin de ce premier livre de Samuel. On arrive donc au livre de 2 Samuel. Et donc c'est la prise de pouvoir de David, qui avait été oint, Dieu avait dit, c'est toi qui vas être le roi une fois que Saül n'est plus là. David et ses hommes vont faire le deuil de Saül et Jonathan notamment. Jonathan était un très proche ami de David, donc il est vraiment triste de cette nouvelle. Et après la période de deuil, David va être fait roi sur Israël. Mais comme souvent quand on entend les histoires de royaumes, la famille de Saül ne l'entend pas de cette oreille. Et c'est le cousin de Saül qui s'appelle Abner. Il se dit ça va pas se passer comme ça, et donc il y a une petite guerre civile qui éclate au début de 2 Samuel, et qui va durer jusqu'au moment où Abner est assassiné par quelqu'un qui est fidèle à David. Et donc c'est à partir de ce moment-là que David est vraiment roi sur tout Israël. À partir de 2 Samuel 5, il va gagner une grande bataille contre les Philistins. Et on nous dit alors que le pays était alors en paix. Et David a alors envie de rendre gloire à Dieu pour le fait qu'il est devenu roi, pour le fait qu'il soit en paix, le pays soit en paix. Et il se dit, on va faire venir l'arche de l'alliance qui était restée à cet endroit où on l'avait mise, qui n'avait pas été bougée. Et il se dit, on va la faire venir maintenant à Jérusalem, qui est notre nouvelle capitale. Et la première fois, il va devoir s'y reprendre deux fois. Il fait une première fois où il ne demande pas vraiment l'avis de Dieu, et ça se passe mal. Et finalement, il y a une histoire où il la met sur un char, et le char va se renverser sur le terrain, et il y a deux personnes qui accompagnent, qui mettent la main et qui sont tuées sur le coup parce qu'ils mettent la main sur l'arche. Et donc David se repent un peu devant Dieu et dit donc, bon Dieu, comment je veux faire venir ton arche à Jérusalem, comment est-ce que je dois faire? Et donc il arrive finalement, Dieu lui explique comment faire, comment il veut qu'il s'y prenne. Et puis David se dit aussi, on loue encore Dieu dans un tabernacle en toile, alors que c'est Dieu, on a cette ville, moi j'habite dans une grande maison, dans une ville fortifiée, je veux construire un temple pour Dieu, pour que Dieu puisse habiter en quelque sorte dans quelque chose de digne de Dieu. Et Dieu lui dit que c'est pas à lui de le faire, mais que son fils pourra construire ce temple. Et après ça, David va reprendre des campagnes militaires contre les Philistins, contre les Moabites et contre les Syriens. C'est peut-être un bon moment juste pour regarder cette feuille-là. Donc si vous, à gauche, c'est le royaume de Saül, qui va de Dan au nord jusqu'au sud de la mer Morte. Et on voit en fait que David va réussir à vraiment agrandir le territoire. Qu'on voit que la mer Morte, il va beaucoup plus au sud, il va conquérir Édom, Moab, Ammon, les Philistins, ils vont dominer sur eux. Et donc il agrandit beaucoup le territoire, et c'est toutes ces batailles, ces petites histoires de il va à un tel endroit et gagne une bataille contre telle peuplade, etc., contre tel roi. Et donc avoir ces cartes, ça permet un petit peu de se le mettre en tête. Ensuite, une petite histoire d'un certain personnage qui s'appelle Mephibosheth. Et en fait, la tradition à l'époque, quand même parmi les rois, comme on peut le voir souvent au cours de l'histoire, c'est quand une famille, prend le pouvoir pour un coup d'État, souvent pour s'assurer que leur pouvoir va rester tranquille, ils cherchent toute la famille de l'ancien roi et ils tuent tout le monde pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cousins éloignés qui viennent se venger plus tard, etc. Et Jonathan, en fait, avait demandé à David, comme ils étaient très proches amis, il avait dit « épargne notre famille, la famille de Saül ». Et David lui avait promis, et donc à un moment dans son royaume, David se dit « tiens, où sont les descendants de Saül? Je veux les bénir. » Et donc il trouve ce Mephibosheth qui est de la famille de Saül, et il lui dit « Viens habiter à ma à ma cour et je prendrai soin de toi pour garder la promesse qu'il avait faite à Jonathan. On voit ensuite à 2 Samuel 10 une guerre contre les Ammonites. C'est donc ceux qui sont sur les cartes, là on voit Ammon sur le côté est, un peu au milieu là. Et au milieu de cette campagne, on a une histoire qui marque en grande partie la vie de David et ce qu'il laisse comme héritage, un petit peu ce à quoi on pense quand on pense à David et toutes ses troupes sont à la guerre et lui il reste à Jérusalem, il se dit je vais rester tranquille, il tombe un petit peu dans la paresse, tout va bien, il a même plus besoin de se déplacer sur le front. Et c'est à ce moment-là qu'il va tomber dans le péché en commettant l'adultère avec Bathsheba. Cette femme Bathsheba a été mariée et elle tombe enceinte. Et David va essayer de faire revenir le mari pour essayer de cacher le fait qu'elle est enceinte. Mais lui... qui est un homme droit, dit « Mais tous mes camarades sont au front et moi je viendrai profiter tranquille à la maison, non, hors de question. » Et donc David, à ce moment-là, dit « Bon, ben je te renvoie au front » et il demande à son général de l'envoyer à l'endroit, le pire endroit de la bataille, et Uri est tué. Et après ça, David va prendre Bathsheba comme femme. Et un petit peu après, Dieu va envoyer un prophète, Nathan, le confronter en fait. Il va aller le voir et il va lui raconter une histoire en lui disant voilà, il s'est passé telle chose avec une histoire qui est un peu une histoire détournée de ce qu'a fait David. Et il lui dit David, qu'est-ce que tu ferais à un tel homme? Et David dit ah, ben, il mérite d'être condamné à mort. Et Nathan lui dit, mais en fait, cette histoire, c'est l'histoire de ce que tu viens de faire. Et donc là, David se repent. On voit que Dieu l'épargne en quelque sorte, va pas lui le condamner pour ce péché, et il reste dans la Bible comme un personnage qui est un exemple malgré ce grand péché. Et l'idée, c'est qu'il s'est vraiment repenti. On a notamment le psaume 51 qui raconte comment il s'est détourné de ça et il a vraiment vis-à-vis de Dieu était vraiment à demander pardon à Dieu et a vraiment voulu changer. Malheureusement pour David, il y a des conséquences qui restent. Le fils en question qui naît de ce péché meurt. Et après ça, la famille de David va vraiment tomber dans le chaos. Et c'est ce qu'on voit dans la fin du livre de 2 Samuel. Il a une de ses filles, Tamar, qui est violée par un de ses frères, Amnon. Un autre frère, Absalom, va tuer Amnon pour venger sa sœur. Cet Absalom va ensuite s'enfuir. Et ensuite, cet Absalom va se révolter contre David, son père, avec l'aide de Ahitophel, qui est en fait le grand-père de Bathsheba. Donc, on voit qu'en fait, il y a toute une histoire d'intrigue, de problèmes qui sont liés à toutes ces... plusieurs enfants qui sont un petit peu en conflit et qui vont vraiment pourrir la fin de la vie de David et de son royaume. On a à la fin du livre de 2 Samuel une dernière victoire sur les Philistins. Puis on a un groupe d'hommes qui étaient appelés les vaillants hommes de David qui sont mentionnés dans 2 Samuel 23. C'était des hommes qui étaient fidèles, qui faisaient partie de sa garde rapprochée. On nous raconte quelques histoires sur ces personnages. Et on a aussi quelque chose que David va faire, qui va provoquer la colère de Dieu. Et c'est un recensement. Et l'idée du recensement, c'était un petit peu pour faire le point de ses forces, et c'est un petit peu l'idée de sa confiance en sa force humaine, et qui se dit bon, je vais aller compter exactement combien j'ai d'hommes dans mon armée pour pouvoir un petit peu rouler des mécaniques, et ça plaît pas à Dieu. Et donc ça reste aussi comme une note un petit peu négative dans la vie de David. Et on arrive à la fin de la vie de David et du livre de 2 Samuel. Quelques idées par rapport à ce livre. Il y a plein de leçons théologiques ou de leçons qu'on peut tirer, nous, des histoires qu'on voit. On avait parlé la dernière fois, et on le voit ici encore, c'est l'équilibre et le mélange entre les actions de Dieu et les actions de l'homme. Il y a un mélange des deux, où l'homme fait des choses, décide de faire des choses, a une certaine liberté dans ces choses, et en même temps Dieu, qui a son objectif dans l'histoire et qui veut arriver à ses fins, et qui y arrive même quand les hommes ne font pas forcément ce qu'il leur demande de faire ou ce qu'il veut. Et il y a ce mélange entre les deux qui est difficile à comprendre, mais qui reste et qui est un état de fait. Par rapport à ça, l'idée reste quand même aussi que l'homme profite beaucoup plus du fait de faire la volonté de Dieu que de s'y opposer, et qu'en général ça finit mal. On voit avec David que la fin de sa vie est vraiment pourrie par des problèmes au sein de sa famille, alors que Dieu lui avait donné vraiment tout ce qu'il voulait et tout le succès dont il avait besoin. On voit aussi qu'on ne peut pas manipuler Dieu avec une sorte de religiosité superficielle. Quand les Israélites font amener l'Arche de l'Alliance en se disant suffit qu'on ait notre croix affichée quelque part et on va gagner la guerre, si j'ai ma croix autour du cou, tout ce que je fais ça va aller. Dieu ne veut pas une relation superficielle ou un tampon. Dieu veut des cœurs qui sont vraiment qui veulent lui obéir et qui veulent faire sa volonté, qui sont pas juste à chercher le génie dans la bouteille, à frotter, à dire tiens, est-ce que tu peux au fait faire ça pour moi. Il veut qu'on lui obéisse et qu'on soit droit devant lui. Toute l'histoire du peuple d'Israël et ça aussi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi la patience de Dieu envers ceux qu'il aime. On voit combien de fois ils lui désobéissent. On va le voir dans 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques, qu'ils continuent de désobéir. Et à chaque fois, Dieu envoie différents prophètes pour leur dire « ce que vous faites est mal, si vous continuez comme ça, ça va mal se terminer ». Et pendant des centaines d'années. Et le Nouveau Testament nous dit que c'est pas par incapacité à agir que Dieu patiente, c'est qu'il aime ces gens et qu'il veut qu'ils se repentent par eux-mêmes. Il veut qu'ils reviennent, qu'ils choisissent eux de revenir, et que ce soit pas contraint et forcé et puni, qu'ils soient soumis. Il veut notre réaction par amour, il veut que nous le choisissions. Ce que je vous disais aussi, enfin, un dernier point, l'idée qu'on avait eu les prêtres qui avaient dirigé le peuple, on avait eu les juges qui avaient dirigé le peuple, qui n'avaient pas été vraiment des options suffisantes ou qui avaient amené de bonnes choses pour le peuple. Et on va voir maintenant les rois. Et on va voir que l'idée de royaume ne va pas non plus vraiment convenir, et que le peuple va quand même se détourner de Dieu et pas suivre la volonté de Dieu avec cette dernière option. Donc maintenant on se tourne dans 1 et 2 Rois. On n'est pas sûr là non plus de qui était l'auteur. C'était peut-être le prophète Jérémie ou Esdras, qui a écrit les livres qui suivent. On pense que la personne qui a écrit résidait, était en exil à Babylone pendant qu'il écrivait, et qu'il a voulu réécrire l'histoire des rois. Et donc on commence dans un roi avec David qui est vieux, et le pouvoir qui doit être transféré Le livre commence avec son fils Adonia, qui est un petit peu l'aîné, et qui se dit « c'est moi qui dois devenir roi, logiquement, donc je vais un petit peu forcer la chose, mon père il fait rien, donc je vais l'aider un petit peu et je vais provoquer la chose », qui essaie de s'allier avec quelques conseillers de son père et de forcer le passage. Et en fait, le prophète Nathan, qui avait repris David, va venir voir David et lui dire « tu avais décidé par le passé que c'était Salomon, le fils qui devait devenir roi, et que c'était ça la volonté de Dieu aussi. » Et ils vont réussir à empêcher Adonia de prendre le pouvoir. Et David meurt. Et on voit en fait qu'il va donner ses dernières instructions à Salomon après avoir passé l'onction officielle à Salomon. Et Salomon, lui, commence son règne en faisant tuer son frère Adonia, et ensuite deux conseillers, Joab et Shimei, pour un petit peu asseoir son pouvoir et vérifier que ce soit carré dans la tête de tout le monde, qu'il n'y ait pas de guerre civile. Mais on voit qu'après, en fait, il plaît à l'Éternel. Et il cherche à faire la volonté de Dieu, et il veut bien régner, il veut mener le peuple dans le chemin que Dieu veut. Et Dieu va lui dire « Demande-moi quelque chose et je te l'accorderai, ce que tu fais est bien. » Et Salomon va demander à Dieu la sagesse pour savoir bien diriger. C'est dans 1 Roi 3. Et Dieu lui dit, puisque tu as demandé ça, tu n'as pas demandé des choses de manière égoïste, tu as demandé parce que tu veux bien diriger le peuple, je vais te donner ça, mais je vais aussi te donner la richesse, le succès, et tout ce que tu aurais pu demander pour toi, mais que tu n'as pas demandé, je vais aussi te l'accorder. Et donc, dans 1 Roi, ça continue avec une présentation assez large de la sagesse, la puissance de Salomon. On sait qu'il reste comme une figure dans la culture générale, comme quelqu'un de très riche et de très influent. On nous montre comment il va organiser le royaume, comment il va organiser les choses, comment il va, par sa sagesse, organiser le territoire. Il bénéficie d'un royaume qui a été soumis et conquis par son père David. On avait dit que Dieu avait dit à David qu'il ne pouvait pas construire le temple, que ce serait son fils. Et donc Salomon va construire le temple pour Dieu à Jérusalem et l'inaugurer. C'est dans 1 Roi 5 à 8. Et il continue après ça de construire d'autres choses dans le pays, et aussi de régner dans la paix et la richesse. On voit que Salomon, dans cette richesse, dans cette facilité, il va avoir beaucoup de femmes. On dit qu'il a eu 300 femmes et 700 concubines. Et ça finit par le détourner de Dieu, parce que beaucoup de ces femmes étaient d'autres peuples et louaient d'autres dieux, n'étaient pas forcément du peuple d'Israël. Et veulent aussi louer leur Dieu et demandent donc des temples ou des choses à Salomon, et il va finir par se détourner malgré sa grande sagesse, et Dieu va lui donner des ennemis. Et donc on voit qu'il y a certains ennemis qui arrivent et qui commencent à attaquer le pays. Et dans le livre de 1 Roi, à ce moment-là, on voit la mort de Salomon après 40 ans de règne. Et son fils Roboam va lui succéder. Ce fils Roboam va prendre de mauvaises décisions, va pas très bien commencer, et c'est ce moment-là que le royaume va être divisé en deux. Et donc c'était la carte ici avec le royaume divisé, et il va avoir donc le royaume d'Israël au nord, avec un certain Jéroboam qui va commencer, et le royaume de Juda qui est au sud, avec Roboam, le fils de Salomon, qui reste au pouvoir, mais qui n'a plus qu'une petite partie du royaume. Sur la carte, en fait, comme c'est imprimé en gris, on ne voit pas bien les couleurs. Mais donc le royaume de Juda, c'est toute la partie où il y a marqué Juda avec les pointillés, jusqu'à la mer Morte. De l'autre côté de la mer Morte, c'est Moab, c'était plus le territoire de Juda. Et Israël, on voit au nord. Et donc cette division va durer jusqu'à l'exil. Il y a une longue liste de rois qui va s'en suivre, des rois au nord. Tous les rois du nord vont être mauvais aux yeux de Dieu. Ils vont pas faire ce que Dieu leur demande de faire, ils vont faire ce qu'ils veulent. Pardon ? Le royaume d'Israël, oui. Donc sur cette feuille-là, vous voyez, il y a la division ici. Et en fait, donc, je ne vous ai pas mis les détails, mais Israël au nord, il y a 19 rois qui s'étendent sur 250 ans à peu près. Et eux, ils vont durer un peu moins longtemps et ils vont être amenés en captivité en Assyrie, qui était un royaume vers le nord et qui était un petit peu avant l'apogée du royaume des Babyloniens. Et on voit que Juda, le royaume du sud, avec Roboam, va durer plus longtemps. Il y a 20 rois, ça s'étend sur 370 ans. Le royaume de Juda, il y a des rois qui vont être mauvais, mais il y a aussi des bons rois qui cherchent à faire revenir le peuple à Dieu et qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Ça va vraiment conditionner, et dans la suite d'un roi et dans deux rois et dans un chronique et deux chroniques, ça va être les histoires de ces rois avec plus ou moins de détails. On a perdu Elodie pour le chauffage. Dans 1 roi 17, on voit l'apparition d'un prophète, qui est un prophète important dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est le prophète Élie. Il arrive à un moment où il y a un roi au nord qui s'appelle Achab et qui est marié à une certaine Jézabel, qui elle aussi est connue dans la culture générale. Et Élie va s'opposer à eux et va s'opposer au prophète de Baal. Le royaume du nord, Israël, s'était détourné de Dieu et loué d'autres divinités qui venaient d'autres peuples, à savoir ce dieu Baal. Et il y a des histoires avec Élie contre les prophètes de Baal. Il va faire de grands miracles. Jézabel va vouloir le tuer, il va s'enfuir, Dieu va le préserver. Et en fait, ce Élie, dans un roi, il est dit qu'il... non, c'est dans deux rois, pardon. Élie va... Il y a une grande partie avec la vie d'Élie. Il va avoir un disciple qui s'appelle Élisée, qui lui va être amené à prendre la succession en tant que prophète appelé par Dieu dans le royaume. La fin du livre d'un roi, c'est la fin du règne d'Achab, avec une bataille contre les Syriens. Donc là aussi, on les voit, ils sont au nord, ils descendent de Damas sur cette carte-ci. Et il y a un certain roi syrien qui s'appelle Ben-Hadad. Et en fait, Achab, après les batailles contre les Syriens et au cours de cette histoire, va finalement entendre Dieu et se retourner vers Dieu et essayer de plaire à Dieu. Et sa vie va lui être épargnée. Il va pouvoir vivre plus longtemps et pas être défait par les Syriens. Et ensuite, à la fin du livre d'un roi, on voit son fils Ahazia qui va lui succéder. Et là, on arrive dans deux rois. Pour deux rois, ça commence assez rapidement avec la mort de Ahazia. Son frère Yoram va lui succéder. Et puis on a la fin du ministère de Élie, qui est en fait enlevé au ciel dans un tourbillon. Selon l'histoire, ça fait partie des histoires un peu incroyable, avec Enoch, qu'on a vu dans la Genèse, qui est enlevé par Dieu, qui meurt pas sur terre, et dont on pense que c'est peut-être les deux témoins qui seront envoyés par Dieu dans l'Apocalypse, tout à la fin de l'histoire. Alors c'est des choses un peu hypothétiques, mais le texte nous raconte dans 2 Rois 4 que Élisée et Élie sont ensemble, et Élie va être enlevé, et Élisée va lui succéder en tant que prophète. Il y a plusieurs des miracles que Élisée va faire ensuite, pendant qu'il annonce des choses ou qu'il prévient le peuple d'Israël. On voit ensuite encore des batailles contre les Syriens et ce roi Ben-Hadad. Ensuite, il y a une succession de rois. Ça passe, je ne prends pas le temps de m'attarder sur tous les rois qui sont cités. Et puis dans 2 Rois 13, Élisée meurt. On arrive à la fin de la vie d'Élisée. Et Israël, le royaume du Nord, va être défait par les Assyriens et un roi qui s'appelle Salmanazar dans 2 Rois 17. Et ils vont être emmenés en exil. Ce chapitre 2 Rois 17 est très intéressant parce qu'il explique bien qui étaient les Samaritains dont on entend parler à l'époque de Jésus. Et en fait, c'était quand les Assyriens ont gagné contre le royaume du Nord, ils ont enlevé une grande partie de la population et ils ont pris d'autres peuplades et ils les ont envoyés pour prendre la place, en quelque sorte, dans le territoire, pour continuer à faire l'agriculture, à vivre là. Et ça donne en fait un mélange un peu bizarre de peuples qui vont un petit peu continuer un espèce de copie un peu mal copiée des rites religieux du peuple juif. Donc ils ont un petit peu des bribes, des croyances juive, mais sans vraiment que ce soit vraiment la même chose. Et c'est ce reste qui va donner les Samaritains. Et ça explique en partie pourquoi, à l'époque de Jésus, les Juifs n'aimaient vraiment pas les Samaritains, parce qu'ils considéraient que c'était un peu un peuple impur, qui n'avait pas vraiment la vraie foi et qui était un peu un mélange, mais pas vraiment la nation d'Israël, et qui c'était un peu de leur peuple, mais corrompu, quoi. C'est bon de se le rappeler, parce que souvent, quand on regarde les Samaritains et qu'on parle dans le Nouveau Testament de l'opposition qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains, on a du mal à se dire, mais c'était qui, c'est d'où ils viennent. Et ce passage dans 2 Rois 17 l'explique très clairement. Et pour s'en rappeler aussi, c'est facile de se rappeler que le royaume du Nord, Israël, la capitale du royaume du Nord, c'était Samarie. On a ensuite un roi, Ézéchias, au sud, en Juda, qui va devoir combattre ces mêmes Assyriens. Mais lui va s'humilier devant Dieu et va faire appel à un prophète qui est présent alors dans le pays du sud, qui s'appelle Ésaïe, et il va demander conseil à Dieu, et Dieu va, de manière un peu supernaturelle, défaire les Assyriens. On nous dit que l'ange de l'Éternel va passer dans le camp des Assyriens, et qu'il y en a 180 000 qui meurent en une nuit, dans 2 Rois 19. Et ensuite, on a l'histoire de Josias, qui est importante. Je saute un petit peu entre les rois. Josias, lui, dans l'histoire, on nous dit que quand il arrive au pouvoir, il y a certains de ses conseillers qui retrouvent une copie de la loi et qui lui amènent. Et quand il lit la loi, il s'aperçoit qu'il est complètement dans le tort. Et donc, il va s'humilier devant Dieu. Il va appeler tout le peuple et leur dire, écoutez, regardez, lisons la loi ensemble. On fait n'importe quoi. On ne suit pas la loi de Dieu. Faut qu'on change. Et donc il y a un petit réveil spirituel dans Juda, dans le royaume du sud, donc. C'est 22. Mm-hmm. Et puis le livre se finit avec un de ses descendants, Jojaquin, qui va finalement être défait par le roi de Babylone, qui lui ne suit pas la voie de Dieu. Et le peuple est soumis, mais laissé un petit peu dans le territoire. Et le roi Sédécias, qui est laissé en place, mais soumis, ils doivent payer des impôts au roi de Babylone. Et ce roi Sédécias va essayer de se révolter contre le roi de Babylone en s'alliant avec l'Égypte. Et donc le roi de Babylone revient, écrase complètement la révolte et emmène la grande partie du peuple en exil à Babylone. Le temple et Jérusalem sont détruits et c'est la fin du livre de deux rois. Quelques idées qui ressortent de ça, c'est encore une fois que Dieu prend soin de son peuple, qu'il est patient, il envoie plein de prophètes. On va voir dans les prophètes, dans les livres, dans Ésaïe, dans Jérémie, dans les petits prophètes qu'on va étudier dans des cours suivants, que Dieu envoie plein de fois en disant « Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, ça va mal finir, ne vous fiez pas à votre propre force ou à l'Égypte ou d'autres rois avec des alliances, ça va mal se finir. Faites-moi confiance, obéissez-moi et ça ira. » Il veut vraiment qu'il revienne à lui. On voit aussi que les différents rois sont parfois amenés à obéir à Dieu dans des circonstances très négatives. Il y a par exemple l'histoire d'Ézéchias. Il a quand même 200 000 Assyriens qui sont campés en face de Jérusalem. Et il se dit en gros, j'ai aucun espoir. Mais même dans cette situation-là, il décide d'obéir à Dieu et ça va lui être bénéfique. Et c'est un petit peu l'idée que faut obéir à Dieu dans les bonnes circonstances et dans les mauvaises circonstances. Même quand la situation semble désespérée, Dieu arrive à faire des miracles pour le peuple. Et c'est intéressant aussi de voir comment les rois sont jugés, bons ou mauvais. C'est très, très rapidement établi, suivant ce qu'ils font, s'ils font ce que Dieu a demandé ou s'ils font ce qu'ils veulent et s'ils louent d'autres dieux, d'autres divinités. Et les phrases sont assez... ça revient une trentaine de fois. Enfin, il y a plein de... une quarantaine de rois dans ses livres et c'est très succinct. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Il a loué d'autres divinités. Il a pas fait ce que Dieu demandait, etc. Et ça va très vite. Et on arrive à 1 et 2 chroniques. 1 et 2 chroniques ont été écrits par Esdras, qui lui vient après l'exil, qui va ramener le peuple d'Israël dans la terre promise. Et il va nous répéter en grande partie tout ce qu'on a vu dans 1 et 2 rois, et même dans Samuel. Ici, j'ai essayé de le mettre. On voit ici sur cette frise-là, il y a 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, et 1 et 2 chroniques, c'est un peu une répétition de ce qu'il y avait avant. Et il va répéter l'histoire, mais avec un accent sur le royaume du Sud. Pourquoi ? Parce que la tribu de Juda, c'est celle qui va être la tribu par laquelle va arriver Jésus, plus tard dans l'histoire. Et donc il y a une importance pour la Bible. Dieu avait son plan. C'est aussi la nation, c'est un petit peu la tribu par laquelle Dieu va continuer le peuple. On voit que le royaume du Nord, Israël, est complètement défait, les rois sont éliminés, c'est vraiment la bérésina complète, on a dit qu'ils avaient été mélangés avec d'autres peuples, etc. C'est le royaume de Juda qui est amené à Babylone, qui garde un semblant d'unité, qui va revenir plus tard ensuite dans la terre promise, Et Dieu avait promis à David qu'il garderait toujours quelqu'un de sa descendance sur le trône, qu'il y aurait quelqu'un, et c'est prophétiquement parlant Jésus. Mais c'est par la tribu de Juda qu'il y a une suite à la nation. Et donc, 1 et 2 Chroniques mettent l'accent sur cette tribu. Et c'est intéressant aussi, quand on regarde l'histoire d'Israël, on a vu que on était parti avec le choix de Dieu qui choisissait un homme, avec Abraham, qui donnait une famille, une tribu, ensuite qui donnait une nation. Et là, on a l'impression que ça se rétrécit avec une tribu qui est choisie et la famille de David pour finalement arriver à Jésus. Dans ces livres, il va avoir une plus grande place donnée au temple et au rite, et à tout le rythme et tout ce que devaient faire les prêtres dans le temple avant la chute. Et on va avoir plus de détails aussi sur plusieurs des réveils spirituels dans le royaume de Juda. Je vous avais dit qu'il y avait certains rois, Ézéchias, Josias, qui s'étaient tournés vers Dieu et qui avaient voulu faire ce que Dieu voulait. Et on va avoir plus de détails sur ces choses-là. C'est aussi... Esdras écrit après l'exil à Babylone et il veut communiquer à ce peuple qui revient en terre promise leur histoire. Et en fait, on voit que ça commence vraiment très loin. Le début de 1 Chronique, on voit la généalogie d'Adam jusqu'à David, jusqu'à Sédécias, qui était le dernier roi de Juda. On a d'autres détails sur les descendances des différentes tribus d'Israël. Et c'était l'idée que le peuple qui revenait en terre promise connaissait pas bien sa propre histoire, ni l'importance des rites religieux. On a vu par exemple le roi Josias avant l'exil, qui se disait « Oh tiens, le livre de la loi, qu'est-ce que c'est? Je vais le lire. On fait rien de ce qu'il y a marqué dedans. Et donc on voit que même avant l'exil, ils connaissaient pas bien leur histoire déjà. Nous on lit ça, c'est un livre, mais en fait je vous disais par exemple... Quand on regarde les monarchies, là, c'est sur 300-400 ans. Donc, c'est quand même... vous pensez à nos ancêtres il y a 400 ans. Est-ce qu'on sait ce qui s'était passé à leur époque? Non. Pas forcément en détail. Et donc, il y a un oubli. Et donc, l'objectif de ces livres et de chroniques, c'est de rappeler à ce peuple qui ils sont, de leur donner une unité aussi en tant que peuple, et notamment par rapport à leur unité religieuse. Vous avez dit que les prêtres, puis les juges, puis les rois avaient failli un petit peu à mener le peuple, à donner une unité au peuple. Ici, ils reviennent en terre promise, mais ils sont soumis encore, ils sont sous tutelle en quelque sorte, ils sont pas autonomes, ils sont sous l'empire babylonien encore, et on voit que ça, ils vont continuer à être sous le joug de grands empires. Mais ça leur permet d'avoir une identité propre qui est basée sur Dieu, en mettant l'accent sur Juda et en mettant l'accent sur le temple, sur les prêtres, sur les rites religieux et sur l'importance de leur unité par rapport à ce que Dieu a fait avec ce peuple et comment il les a choisis, etc. Et donc dans 1 Chronique, on commence avec la généalogie d'Adam, en passant par les patriarches jusqu'à David, et puis ensuite avec les rois jusqu'à Sédécias. Ensuite, on a, je vous disais, d'autres détails sur les tribus, avec les descendants des différentes tribus d'Israël avant l'exil. Il y a des détails sur les habitants qui sont restés à Jérusalem pendant l'exil. Les Babyloniens en ont laissé quelques-uns. Il y a notamment le prophète Jérémie qui est retourné a priori à Jérusalem entre-temps. On a une répétition du règne de David de 1 Chronique 10 à 29. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est beaucoup de ce qu'on a déjà vu dans Samuel et dans 1 Roi. On a ces détails sur le tabernacle et les rites, et aussi les préparatifs pour la construction du temple, qu'on n'avait pas trop dans Samuel, mais David... quand Dieu lui dit tu peux pas construire toi le temple, David il dit d'accord, mais par contre je vais faire tout ce que je peux pour aider mon fils. Donc je vais commencer à faire des piles de bois, des piles de matériel, je vais commencer à tout préparer pour que ce soit plus facile pour mon fils. Ensuite, dans 2 Chroniques, on a le règne de Salomon, la construction du temple, dans ces 2 Chroniques 1 à 9. Puis on a la division du royaume, ce qu'on a vu avec la succession de rois, avec les 2 royaumes. Et puis l'exil avec la défaite contre Babylone. Et un passage intéressant à noter, c'est dans 2 Chroniques 36, donc tout à la fin de 2 Chroniques. Une note un petit peu, on va dire, positive, où, comme c'est Esdras qui écrit après l'exil, qui dit que le peuple serait en exil, c'est les versets 36, à partir du verset 20, on voit Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Verset 21, ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. Donc c'est un petit peu l'idée que Dieu avait dit, le peuple serait en exil pendant 70 ans, mais qu'il pourrait ensuite revenir dans le pays. Et on voit ensuite, sur la fin de 2 Chroniques, l'édit de ce roi Cyrus, qui leur donne l'autorisation de retourner en terre promise et de recommencer à s'établir et de reconstruire un petit peu Jérusalem et de reprendre leur place dans le pays. Donc ça finit un peu sur une note positive. Les idées qui sortent, juste quelques points, c'est l'idée que le culte, la louange accordée à Dieu doit être au centre. Ça doit être au centre des préoccupations du peuple. Et c'est aussi vrai pour nous que Dieu doit être au centre de nos vies de tous les jours. Pas quelque chose de périphérique, mais quelque chose de central. On voit encore la patience et la fidélité de Dieu au peuple, malgré le fait que le peuple ne respecte pas Dieu. Quand Dieu passait des alliances avec le peuple était d'accord et disait « Nous aussi, on va faire ça. Dieu a promis ça et nous, on promet de faire ça. » Et quand le peuple n'était pas fidèle à leurs promesses, Dieu, lui, restait fidèle et gardait les promesses. On voit les promesses avec Abraham, on voit les promesses avec David. Il va préserver la tribu de Juda, il va préserver cette lignée. En note, par rapport à ça, on voit ici que le royaume du Nord, en fait, ça va être 7 monarchies différentes. Pas toute la même famille. Il va avoir une famille pendant quelque temps, ensuite ils vont être éliminés, une autre famille arrive, etc. Alors que dans le royaume de Juda, c'est toujours les descendants de David qui sont au pouvoir. C'est cette famille, cette unité, ce fil rouge qui reste avec le plan de Dieu. Lui n'oublie pas son alliance, n'oublie pas ses promesses. Et puis un point aussi, c'est l'idée de ce que je vous disais, peut-être aussi l'idée de par rapport au fait que Dieu doit être au centre de nos préoccupations. C'est aussi l'idée que c'est le présent et notre quotidien qui sont importants et pas forcément le fait de soucier de l'avenir ou d'éventualité, mais d'obéir à Dieu aujourd'hui. Il y a tellement de leçons dans ces livres qu'on peut tirer pour nous que c'est difficile de tout couvrir. Je voulais, avant de finir, regarder quelques-uns des personnages, juste pour vous rappeler quelques-uns de ces personnes dont on a parlé, qui sont des personnages importants et qui reviennent dans la Bible. On a commencé avec ce grand prêtre Élie, qui était juge, qui prend la succession de Samson, qui était le dernier juge dans le livre des juges, et qui va juger pendant 40 ans. C'est lui qui a ses 2 fils, Phinéas et Ophni, et qui va élever Samuel, en fait, préparer Samuel à prendre sa suite. C'est difficile parce qu'on a vu plus tard qu'il y a un autre prophète Élie. Il y a Élie, Élie qui est le juge, et il y a le juge de Samuel, et il y a le prophète Élie, E-L-I-E, qui arrive plus tard.
Il n'y a pas d'E.
Le premier, il n'y a pas de E, et le deuxième, il y a un E.
Non, en anglais,
en anglais, oui, c'est Eli et Elijah, ouais. C'est des choix après de traduction des noms en hébreu pour comment on est transcrit en français, mais on confond souvent. Et donc c'est ses fils qui sont tués et lui qui meurt quand il entend les nouvelles de la défaite des Israélites et de la perte de l'Arche de l'Alliance. Et c'est lui qui va préparer Samuel à son service. Samuel, c'est lui qui donne son nom aux deux livres. Il était le fils d'Elkanan et Anne. Et en fait, sa mère, Anne, était stérile. Et elle prie Dieu de lui donner un fils. Et elle promet à Dieu que si elle a un fils, elle le donnera à être consacrée à Dieu. Et donc, quand Samuel est né, Anne va voir Élie, le prêtre, et lui donne Samuel pour qu'il l'ait à son service au tabernacle pour servir Dieu. Et Samuel, lui, se retrouve dans cette période entre les juges et la monarchie, comme je vous ai dit. Il est le dernier des juges, avant les rois. Et c'est une période difficile. On a vu que les Philistins posaient bien des problèmes au peuple. C'est lui qui donne la royauté à Saül de la part de Dieu. Et puis c'est lui qui va oindre David quand Saül tombe en disgrâce aux yeux de Dieu. On a vu ensuite Saül, donc, qui est le premier roi, qui est de la tribu de Benjamin. Lui a toutes les qualités d'un roi, comme on l'entend nous, et comme les peuples autour d'Israël l'entendaient, à savoir qu'il était beau, grand, puissant. On voit qu'il est humble et courtois. On voit au début de son règne qu'il est même un petit peu humble, il fanfaronne pas, on lui dit tu vas être roi, il se cache, il a même pas envie d'être présenté. On voit que le pouvoir va le corrompre et qu'à la fin il finit vraiment impatient, désobéissant vis-à-vis de Dieu, malhonnête. Finalement, il laisse une impression étrange avec une humeur très changeante. On voit qu'il a des sautes d'humeur. Un jour ça va, le lendemain il a envie de tuer tout le monde, c'est vraiment un peu... on voit qu'il perd beaucoup de temps et d'énergie sur des conflits inutiles où il va poursuivre David alors que c'est David lui fait rien, juste par jalousie. Et on a vu qu'il commet surtout deux grandes erreurs. À un moment, je vous en ai pas parlé, mais il va offrir des sacrifices à Dieu lui-même par impatience. Il devait attendre Samuel pour faire des sacrifices à Dieu avant une bataille. Samuel tarde un petit peu, il dit je vais le faire moi-même. Il le fait. Puis Samuel arrive et dit mais qu'est-ce que ça va pas. Et puis on a vu après cette histoire avec les Amalécites et le butin qu'il va prendre. Dieu lui dit il faut que tu laisses tout. Et lui il se dit c'est dommage quand même, on va les prendre, je les offrirai en sacrifice à Dieu, etc. Et Samuel arrive et dit tu désobéis encore à Dieu. Dieu veut pas des offrandes, des sacrifices. Dieu veut notre obéissance. Et on a vu que ça amène plus tard la fin de sa vie, un peu triste aussi, cette histoire avec la magicienne à qui va demander le futur et elle qui lui dit tu t'en as pas pour longtemps. Et puis peu de temps après, dans une bataille contre les Philistins, il va mourir. Et après lui arrive donc David, qui est le fils d'Isaïe, qui est de la tribu de Juda. Accessoirement, c'est un des descendants de Boaz, le mari de Ruth qu'on a vu au cours précédent. Lui par contre c'est un petit, c'est le dernier de la famille, c'est un roux, ce qui n'était pas forcément positif à l'époque, mais il est doué dans tout ce qu'il fait. On voit qu'il est il est doué à la musique, il est bon dans le combat, il est bon dans l'administration, mais surtout il a un cœur qui plaît au Seigneur et un cœur dont on nous dit qu'il est selon le cœur de l'Éternel, qu'il est en accord avec le cœur de l'Éternel. Et Dieu va donc passer cette alliance avec lui dans 2 Samuel 7, où il va lui dire « Il y aura toujours un de tes successeurs sur le trône. » Et ça va être répété dans 1 Roi 11. On avait vu qu'il refuse plusieurs fois de prendre le pouvoir par la force. de tuer Saül. Il le laisse alors qu'il avait la possibilité, dans des embuscades ou dans des situations, de le tuer. Et il dit non, je deviendrai roi quand Dieu me donnera le pouvoir. Et ça plaît à Dieu. On a vu que le péché avec Bathsheba vient ternir son règne, même si Dieu lui pardonne. Et ça va causer des divisions dans sa maison et dans sa famille qui vont pourrir la fin de son règne. Il reste malgré tout un exemple qui est cité plein de fois dans le Nouveau Testament comme un exemple de quelqu'un qui a plu à Dieu, qui avait notamment ce cœur qui était selon le cœur de l'Éternel. Et ces psaumes sont notamment des exemples de notre relation, de ce que peut être et ce que doit être la relation d'un homme avec Dieu, pleine d'honnêteté et de vulnérabilité peut-être vis-à-vis de Dieu, vraiment de parler à Dieu, de lui dire toutes nos pensées. Et on voit notamment dans le psaume 51, je vous disais, comment il se repent vis-à-vis de Dieu. Il a son cœur qui est dans le chagrin à cause de ce qu'il a fait, quand il se rend compte de ce qu'il a fait vis-à-vis de Dieu. Ensuite vient Salomon, son fils, qui prend la succession et qui plaît à Dieu, qui va recevoir cette grande sagesse qui reste dans la culture générale. Il va faire construire le temple, qui est un temple incroyable. Quand on s'arrête sur les chiffres par rapport à son royaume, par rapport à son économie, c'est des chiffres de richesse incroyable. Quand on regarde les quantités d'argent et d'or et d'hommes, le temple c'est à peu près 180 000 ouvriers sur 7 ans. C'est des quantités incroyables, c'est une richesse. On voit que des rois de toute la terre autour viennent le voir pour voir son royaume, qui entendent parler de lui. On parle de la reine de Sheba qui vient d'Éthiopie, on pense, pour venir voir son royaume. Mais on voit que malgré sa grande sagesse, Salomon aussi tombe dans le péché et n'obéit pas à la parole de Dieu. Et on voit en fait dans Deutéronome 17, il y a un passage qui dit que si vous avez un roi, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de chevaux, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes et il ne faut pas qu'il ait beaucoup d'argent et d'or. Et on voit qu'en fait Salomon lui a fait toutes ces choses et ça finit par le corrompre et par l'atteindre malgré sa grande sagesse. Et on voit que Dieu va enlever la royauté de tout le royaume, puisqu'il divise le royaume avec cette partie du nord qui échappe. Il reste la partie avec Juda au sud. Salomon a écrit les Proverbes, l'Ecclésiaste, qu'on a étudié récemment à l'église, et qui comme conclusion, dit « Crains Dieu et observe ses commandements », qui finalement, quand même, malgré sa grande richesse, avait cette sagesse-là. Et donc, à sa mort, le pays se divise en deux royaumes, mais finalement, ce n'est pas un héritage très positif, malgré son immense sagesse. On se dit qu'un roi sage, ça doit aussi être quelqu'un qui arrive à bien préparer sa succession pour l'intérêt de la nation. Et en fait, dans un des commentaires, il disait que le règne de Salomon est incroyable, qu'il arrive à pousser le pays jusqu'à son apogée, mais qu'en fait, il augmente les impôts, il construit tellement et il pousse le pays en fait à la limite du possible presque, et que ça, le pays en quelque sorte vit au-dessus de ses moyens sous le règne, et que lui arrive à tenir la situation par sa sagesse et par ses capacités, mais qu'une fois qu'il passe, ça explose un petit peu. C'est notamment son fils Roboam qui la division du pays se passe pour des problèmes d'impôts, et c'est pour ça que la partie du nord se révolte et se divise, etc. Et donc ça ternit là aussi un petit peu le règne de Salomon. Je vous disais que ces livres étaient un peu en contraste avec d'autres livres historiques assez objectifs, et on voit que pour tous les personnages, pour tous les héros, les bons rois de ces histoires, qu'il y a quand même toujours on nous raconte le bon et le mauvais, ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'ils avaient bien fait, ce qu'ils avaient mal fait. Et c'est le cas avec David, avec Salomon, avec les autres. On a aussi deux personnages qui sont importants. Donc Élie qui est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament, qui a été enlevé au ciel, on disait, dans ce tourbillon. C'est un des deux personnages qui revient, qui apparaît lors de la transfiguration de Jésus au Mont des Oliviers. Oui. Dans un tourbillon, pardon. Lui va accomplir 8 grands miracles. Et je vous disais qu'il était. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est peut-être un des deux témoins dans l'Apocalypse. On en parlera quand on arrivera dans l'Apocalypse. Et ensuite, son successeur, Élisée. C'est intéressant parce qu'Élisée, quand il arrive. À prendre la succession, quand il voit Élie partir, il dit à Dieu donne-moi une double portion de l'esprit d'Élie, que je sois capable de faire les grandes choses qu'il a faites. Et on voit que dans les livres qu'il y a 16 grands miracles qui sont accomplis par Élisée, un petit peu en clin d'œil. Il a deux fois le nombre de grands miracles qu'Élie avait, et que Dieu lui a accordé une double portion en quelque sorte de l'esprit d'Élie. Voilà, et puis pour terminer, bon, on n'a pas vraiment besoin de les lister, tous les différents rois, mais il y a le royaume du Nord, Israël, dont la capitale est Samarie, qui va avoir 19 rois sur 250 ans, avec 7 monarchies, ce que je vous disais, avec différentes familles qui vont se succéder, et eux seront tous mauvais aux yeux de Dieu, ils vont pas chercher à faire la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'ils durent un petit peu moins longtemps. Et le royaume du sud, Juda, qui va avoir 20 rois sur 370 ans, avec une monarchie, c'est la famille de David, les descendants de David. Et certains sont bons et certains sont mauvais. C'est intéressant, même par d'autres textes historiques, on pense que c'est sous. J'ai trouvé intéressant de noter ça. Il y a un roi qui s'appelle Manassé, qui est le fils d'Ézéchias. On a parlé d'Ézéchias. Et Manassé, en fait, a été tellement mauvais et tellement détourné de Dieu qu'il a fait des choses, des abominations dans le temple. Et la tradition juive nous dit que c'est sous ce roi Manassé que les prêtres ont fait enlever l'arche de l'Alliance et l'ont emmené en Égypte pour le préserver. Et c'est là qu'on perd la trace, en fait, de l'Arche de l'Alliance. Et c'est là ce qui donne un petit peu les spéculations sur, notamment, qui a donné des films comme les aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones, parce qu'en fait, on a perdu l'Arche, on ne sait pas où elle est allée et on ne sait pas qui l'a gardée. On sait notamment qu'il y a une église très ancienne, une tradition très ancienne du christianisme dans le sud égyptien et en Éthiopie, et on pense que peut-être il y avait l'arche quelque part. Alors ça donne lieu à des fantasmes d'archéologues, mais c'est à cette époque de division du royaume et avec ces rois qui faisaient un petit peu n'importe quoi qu'ils ont perdu encore une fois la trace, et on a vu aussi qu'ils doivent être rappelés et on doit leur rappeler qui ils sont. Qu'ils arrivent même à oublier leur passé, alors qu'ils avaient ce passé tellement fort qui nous semble tellement clair avec la Bible entre les mains, mais pour ces peuples qui étaient exilés, qui revenaient, qui voyaient pas forcément le temple, qui n'étaient pas au courant de leur histoire, ces livres vont permettre d'avoir un rappel et vont leur permettre de se rappeler qui ils sont, et donc ont une grande importance pour le peuple d'Israël et pour nous, là où on est. Voilà. C'est tout pour ce soir.